Le débat du jour. Romain Ozoui.
Bonsoir à tous. Vous pouvez les appeler comme vous voulez, pornographie, porno, X. En tout cas, ces contenus sur Internet qui montrent des scènes de sexualité explicites, souvent violentes, sont interdits aux moins de 18 ans. Or, selon la récente étude Médiamétrie, près d'un tiers des mineurs qui utilisent Internet en France aujourd'hui, eh bien, consultent chaque mois 50 minutes en moyenne un site porno. C'est un chiffre qui est en augmentation et ces jeunes sont de plus en plus jeunes, des enfants même. Tenez-vous bien, 20% des garçons de 10-11 ans, 20% sont des utilisateurs de contenu X. D'où notre débat ce soir, comment lutter ? C'est une question qui n'est pas nouvelle et qui s'est accélérée avec Internet et les chiffres nous montrent qu'elle est de plus en plus pressante. Quelles sont les conséquences d'une exposition trop précoce à du porno ? Quelles solutions ? Soyez les bienvenus dans le débat du jour.
RFI.
Et pour répondre à toutes ces questions, nos trois invités, d'abord à mes côtés en studio, Samuel Comblé, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes psychologue de l'enfance et de l'adolescence, directeur des opérations de l'association e-enfance et du 3018, qui est le numéro pour aider les jeunes victimes de violences numériques.
Tout à fait.
Face à vous, Olivier Gérard, bonsoir.
Bonsoir.
Spécialiste des usages numériques à l'UNAF, l'Union nationale des associations familiales. Et notre troisième invité est Pauline Carlier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes psychomotricienne et sexologue. Merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. D'abord, Samuel Comblé, je pense que ce sera intéressant d'avoir l'avis de chacun. Que vous inspirent ces chiffres que j'ai donnés ?
Eh ben, ces chiffres, ils m'inspirent le fait que il y a besoin de réagir parce que quand on regarde aujourd'hui ce qu'est la pornographie, on ne peut être qu'inquiet de s'imaginer que des enfants si jeunes puissent y avoir accès. Je pense que c'est important quand on est adulte de regarder ce à quoi on peut être confronté. C'est plus la pornographie des années 80 avec une espèce de petit scénario à l'eau de rose et avec quelque chose d'assez soft, je dirais, à l'époque. Aujourd'hui, on devrait parler des pornographies déjà parce qu'il y a des styles très différents et on a des images qui font la promotion d'inceste, qui véhiculent l'idée que la zoophilie ou la nécrophilie ou que la scatologie font partie des pratiques sexuelles des adultes. Alors je sais qu'en disant ça je choque, mais je dirais tant mieux parce que je pense que quand on imagine que des enfants si jeunes peuvent avoir accès à ces écrans et à ces images, ben, je pense qu'il faut les accompagner et faire en sorte que ils ne soient pas confrontés à des choses qui vont les choquer, notamment les plus jeunes, ou pour les plus âgés, ne pas leur donner l'idée que la pornographie, c'est le reflet de la sexualité des adultes et ne pas imaginer que la pornographie doit être un guide mode d'emploi de ce qu'ils auront à faire quand ils seront un petit peu plus âgés.
Donc c'est une triple courbe, finalement, c'est-à-dire des utilisateurs de plus en plus jeunes,
oui,
de plus en plus nombreux, donc on l'a dit, de plus en plus jeunes, ça peut être des enfants, clairement,
des enfants
et qui sont confrontés à une pornographie de plus en plus déviante.
Exactement, extrêmement agressive, extrêmement dévalorisante pour les femmes. Et je dirais tout ça dans une espèce de silence total, parce qu'aujourd'hui en France, et peut-être même depuis longtemps, les adultes, ils ont beaucoup de mal à parler de sexualité. Or, c'est intéressant de se dire pourquoi est-ce que des jeunes si jeunes s'intéressent à ces images pornographiques. Je ne pense pas qu'ils aient un attrait particulier pour la pornographie. Par contre, ils ont un attrait et des questions autour de la sexualité. Le problème, c'est que l'école ne joue pas toujours son rôle justement de préventeur justement de, ouais. et d'accompagnant de toutes les questions. Voilà. Les parents ne sont pas toujours les mieux placés et puis ne sont pas toujours très à l'aise, ce qu'on peut comprendre, hein, faut pas leur jeter la pierre. Donc il n'y a pas tellement d'interlocuteurs en fait quand on est un enfant et quand on commence à s'intéresser à ces sujets, ce qui est normal. C'est normal dès le plus jeune âge de s'y intéresser parce que dans toutes les séries aujourd'hui que vous pouvez regarder, il y a de la sexualité à un moment ou à un autre parce que ça fait parler les enfants, parce qu'ils en parlent dans les cours d'école, etc. Et que la sexualité, elle fait partie aussi de nos discours d'adultes. Donc, c'est normal de s'y intéresser. Le problème, c'est que les enfants vont se tourner vers une source qu'ils considèrent être fiable, mais elle ne l'est pas, gratuite, facile d'accès, et c'est la pornographie. Et bien souvent, les jeunes ne vont pas aller, je dirais, faire la publicité auprès de leurs parents qu'ils regardent ces images. Donc, ils vont être choqués, ils vont garder le souvenir de ces images extrêmement impactantes et voire parfois traumatisantes, et ils ne sauront pas comment faire. Et c'est là le drame.
Et on va demander dans un instant à Pauline Carlier, qui est sexologue, les conséquences, évidemment, d'une exposition trop précoce à la pornographie. Mais Olivier Gérard, Samuel Comblé a soulevé une question intéressante, vous qui êtes spécialiste des usages numériques à l'UNAF, l'Union nationale des associations familiales. Qu'est-ce qui amène un enfant de 10-11 ans, parce qu'on l'a dit, je redonne ce chiffre, hein, 20% des garçons de 10-11 ans sont des utilisateurs de contenu X. Qu'est-ce qui les amène à consulter un site internet pornographique ?
À mon sens, il y a
deux facteurs qui expliquent cela. Le premier, c'est, et Samuel l'a dit, c'est il y a quand même des questionnements, des interrogations qui sont autour de, du corps, de la sexualité, de la découverte, de l'amour, de la relation amoureuse. Il y a ces questions qui sont naturelles et qui sont pas nouvelles. Ça, c'est le premier élément. On cherche quelque chose. Et le deuxième élément, c'est la facilité d'accès. La facilité d'accès aujourd'hui, les sites pornographiques sont accessibles en un seul clic. Il n'y a quasiment pas de dispositif de contrôle qui existe. Donc cette facilité d'accès-là, elle permet finalement à tout jeune, garçon ou fille, en notant quand même que l'étude montre des pratiques quand même assez genrées avec des garçons qui sont quand même beaucoup plus consommateurs, ce qu'on savait, connaissait déjà intuitivement ou à travers les contacts de terrain, mais là l'étude le montre, donc c'est quand même un aspect important. Donc en fait, il y a un accès qui est très facile à ces contenus pornographiques, un accès qui est très facile parce qu'en plus, il en existe des milliers de sites pornographiques. Et le troisième élément de faciliter l'accès, c'est aussi le fait que les jeunes aujourd'hui ont des outils qui leur permettent d'accéder à Internet en permanence. Et je trouve qu'un des points importants de l'étude, c'est la manière dont l'accès aux sites pornographiques se fait. 85% des accès aux sites pornographiques se fait par le smartphone. Et 75%, les trois quarts, de manière exclusive. Donc on voit bien qu'on a le smartphone qui est l'outil principal pour accéder à ces sites-là. Et vous parliez tout à l'heure, et Samuel également,
et
de précocité.
Pardon, je vous coupe, mais comme par hasard, le premier smartphone en France, en moyenne, c'est 10 ans.
C'est 10 ans. Dans l'étude qu'on avait menée en 2021, on était à 9,9 ans. Et donc vous voyez qu'on a une précocité de l'accès au téléphone, au smartphone, donc une précocité à Internet, dont on sait que cette précocité-là, elle va entraîner des usages qui, à un moment, vont se rapprocher des usages adultes. Et d'ailleurs, à tel point que quand on regarde les chiffres, on s'aperçoit finalement que les pratiques des jeunes en matière d'accès à la pornographie ne sont pas si différentes que ça des adultes. On retrouve des chiffres quasi similaires. Donc ça montre bien qu'il y a une espèce de reproduction par les jeunes de ce qui se passe chez les adultes. Et ça, c'est un véritable enjeu de société. Sur lequel, alors pour rebondir sur ce que disait Samuel également, effectivement, cette étude-là, nous, ça fait plus de 15 ans qu'on travaille sur ces questions. Et aujourd'hui, avec cette étude, on ne peut plus dire, on ne savait pas, ou on n'est pas sûr, ou peut-être qu'aujourd'hui, on a des données qui sont assez alarmantes. Et donc, il est absolument nécessaire, aujourd'hui, que l'ensemble des parties prenantes se mobilisent et qu'on mettre en place des moyens pour cesser cet accès trop facile et dévastateur aux sites pornographiques.
Et malgré ces chiffres, il y a cette déclaration, on va évidemment en parler et évoquer les moyens dont se dote la France. En 2023, c'est la fin de l'accès aux sites pornographiques pour nos enfants, a déclaré le ministre délégué chargé de la transition numérique, Jean-Noël Barrot. Donc, c'est facile pour un enfant de 10-11 ans d'accéder aux sites porno, vous l'avez dit clairement. Pauline Carlier, vous qui êtes sexologue, j'aimerais savoir qu'est-ce que va chercher un enfant de 10-11 ans dans un site pornographique. Parce que il n'y a pas encore de sexualité à cet âge-là.
Si, la sexualité, elle débute dès le début de la vie. Elle s'arrêtera à la fin de notre vie. Ça fait partie du socle de base des besoins physiologiques. On a une organisation biologique qui est là pour la sexualité. Alors, avant la puberté, l'enfant va avoir une sexualité qu'on peut déclarer auto-centrée. C'est-à-dire qu'il est dans la découverte de son propre corps, de ses propres sensations. Mais il n'y a aucune adresse à l'autre, il n'y a pas d'intention ni dans sa tête ni dans son corps vis-à-vis d'un autre individu. Il est dans la découverte de son corps et de ses sensations. Et à partir de la préadolescence, il y a une phase de transition où les hormones arrivant, il va s'ouvrir dans sa sexualité qu'on peut dire relationnelle, qui serait hétérocentré, donc il y aurait une composante que l'autre est source d'excitation et que le plaisir serait une composante de la relation qui va se nouer entre deux individus, même si au démarrage, normalement, ça n'est qu'imaginaire. Donc l'enfant, quand il est avant cette période de transition de la puberté, il faut absolument le protéger, qu'il reste bien dans sa bulle autocentrée de la découverte de lui-même. Dès qu'il est exposé à la pornographie, c'est comme si on arrachait l'enfant de sa bulle pour l'exposer à une sexualité dont il est loin, très loin, de pouvoir en comprendre les tenants et les aboutissants. C'est d'une violence inouïe. Et puis, il y a aussi cette particularité aujourd'hui que les jeunes qui ont 17, 18, 18, 19 ans vont nous expliquer qu'en fait, ils ont commencé à regarder de la pornographie avant même d'être dans une masturbation de jeunes, d'adolescents. Donc, ils entrent dans la sexualité transitoire vers l'adulte par la pornographie. Et ça, c'est extrêmement... ça a des conséquences lourdes sur leur sexualité d'adulte.
Et une pornographie qui est de plus en plus déviante, comme vous disiez, Samuel Comblet. Vous avez cité des exemples en début d'émission. Olivier Gérard, je reviens vers vous, spécialiste des usages numériques à l'UNAF. Vous avez dit que c'est de plus en plus facile. En tout cas, c'est très facile d'accéder au site X. Il n'y a aucune réglementation ?
Il existe une réglementation. La question, c'est... est-elle appliquée ?
Alors, laquelle existe ?
Alors aujourd'hui, déjà, le texte du code pénal prévoit l'interdiction de l'accès des mineurs aux sites pornographiques. Ça a été complété par une loi de 2020 qui contraignait les sites pornographiques à mettre en place des dispositifs d'authentification de l'âge, c'est-à-dire pour empêcher que les mineurs y accèdent, autre que simplement être déclaratif, je clique, j'ai plus de 18 ans.
Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui prévaut, ça.
Aujourd'hui,
vous avez
c'est
moins
ce qui est en
ans,
place.
Plus de 18 ans, il faut cliquer.
Depuis juillet 2020, ça n'est plus suffisant. Ça n'est plus considéré comme suffisant. C'est-à-dire que la loi dit les sites qui ne mettent en place que ce type de dispositif-là sont finalement hors la loi.
Donc tous les sites sont hors la loi.
Aujourd'hui, quasiment tous les sites sont hors la loi. C'est pour ça que nous avons, avec d'autres, saisi d'abord l'ARCOM, enfin l'ancien CSA, qu'aujourd'hui il y a une procédure,
le régulateur
du numérique. Aujourd'hui, il y a une procédure judiciaire qui est en cours, dont la décision sera rendue le 7 juillet par le tribunal judiciaire de Paris, et qui vise notamment à faire bloquer ces sites qui ne respectent pas la loi. Mais ça n'est que le début, puisque il y a 5 sites qui sont aujourd'hui en suivi juridique. L'ARCOM a mis en instruction d'autres sites, mais il y a des milliers de sites. On voit bien qu'il y a une loi, mais qu'elle souffre aujourd'hui d'une mise en application qui n'existe pas. Donc la loi existe, les textes sont là. Il faut simplement que les textes soient appliqués. Donc à un moment que les décisions judiciaires soient prises, que les mesures soient prises pour faire réagir.
Mais qui résiste, pardon, mais à qui profite le crime ?
Aux acteurs économiques, aux opérateurs de sites pornographiques, il y a des enjeux économiques derrière colossaux.
D'accord.
Évidemment, on est sur des marchés qui se chiffrent en milliards de dollars dans le monde et en millions d'euros en France. Donc il y a des enjeux économiques colossaux.
Plus fort que la protection de l'enfance.
C'est l'un des soucis que nous, on ne cesse de dire. C'est on a parfois le sentiment que la protection de l'enfance, elle est mise en deçà d'enjeux. Alors aujourd'hui, il faut absolument que la protection de l'enfance redeviennent la priorité sur cette question-là et qu'on mette en place, que les décisions soient prises et qu'on cesse l'accès des mineurs, simplement en appliquant la loi. Il ne s'agit pas forcément de remettre en place une loi, de recréer un cadre juridique. Il existe, il faut simplement qu'il soit appliqué.
Ça se passe à peu près pareil à l'étranger ?
Aujourd'hui, il y a pas de pays qui ait mis en place des dispositifs qui permettent facilement de bloquer... d'empêcher l'accès des mineurs. C'est un enjeu global, c'est un enjeu probablement européen, c'est un enjeu qui concerne tous les pays. Donc on n'a pas d'exemple de pays sur lequel on pourrait simplement aller s'appuyer. On espère, nous, et en 2020, lorsque la loi est passée, on était sur une loi qui était en avance. Il faut que la France garde la main sur cette question et qu'on montre qu'on est un pays qui est soucieux de la protection des mineurs et qu'on empêche l'accès des mineurs à ces sites-là.
Mais on n'est peut-être pas si soucieux que ça. Il y a un laxisme des autorités, selon vous, Samuel Comblet, vous qui êtes psychologue de l'enfance ?
En tout cas, c'est vrai que la justice a été saisie et maintenant, depuis plusieurs mois, on va bientôt pouvoir parler en année maintenant. Et on a engagé, nous, de notre côté, des actions. Et c'est vrai qu'on peine à voir des décisions de prise. Et c'est vrai que sur l'international, l'Angleterre avait fait une tentative, justement, d'obliger les utilisateurs de sites pornographiques à se déclarer préalablement au travers de l'envoi de leur carte d'identité. Et ils ont fait marche arrière pour des raisons qui seraient un peu longues à expliquer, mais en tout cas ça n'a pas continué. Et là aujourd'hui, je crois que à ma connaissance, l'État de Louisiane aux États-Unis a repris un peu le même système, et c'est, je crois, le seul endroit dans le monde où on a besoin de se déclarer préalablement avant de pouvoir accéder au site pornographique.
Ce serait une bonne idée en France, selon vous, de devoir fournir une copie, de la carte d'identité pour se connecter à un site porno.
En tant que représentant d'une association de protection de l'enfant, j'aurais envie de dire peu importe ce qu'on fait tant que ça marche. Et c'est vrai que D'accord. C'est un peu ce qu'on nous renvoie, et les sites pornographiques le disent, c'est nous, on veut bien protéger les mineurs, mais dites-nous ce qu'on a à faire. Moi, j'ai envie de dire non, c'est pas à nous de dire comment un site pornographique doit protéger l'accès à son site. Je dirais qu'il y a un certain nombre de possibilités, que ce soit via la carte bancaire, la carte de crédit, la reconnaissance faciale, l'intelligence artificielle peut nous aider aussi à faire un certain nombre de blocages. Ça coûte de l'argent, il faut se mettre en ordre de marche, il y a des choses à faire évoluer, mais je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire, comme le disait Olivier Gérard, et il a raison, qu'on ne savait pas. L'association e-enfance, elle est née il y a 18 ans, et une des raisons qui ont présidé à la création de l'association, c'est justement, à l'époque, l'accès à la pornographie des mineurs. Et 18 ans après, on en est quasiment au même point. Peu de choses ont évolué. Et vraiment, je trouve que c'est assez dramatique, et c'est un constat d'échec, à mon sens, de tous ceux qui sont censés protéger les mineurs, parce que vraiment, il y a toute une génération, et maintenant plusieurs générations, qui se succèdent et qui ne sont pas du tout protégées. Et je pense que ça a des conséquences après sur le rapport à soi, sur le rapport à l'autre et sur le bien-être de l'individu, et il faut vraiment agir.
Et c'est ce que nous disait Pauline Carlier, et je vais vous interroger, Samuel Comblé, dans un instant, parce qu'il y a un projet français qui est intéressant, mais Pauline Carlier, d'abord, sexologue, vous souhaitiez réagir?
Oui, en fait, moi, ce qui m'interpelle dans les pouvoirs publics, c'est que d'un côté, on ne protège pas, ça, c'est déjà extrêmement grave. Mais d'un autre côté, il manque quelque chose de fondamental, c'est l'éducation à la sexualité, une vraie. Parce que tous ces enfants, ils sont curieux. Alors, ça fait 20 ans que nous avons accepté que la culture pornographique devienne une norme. Aujourd'hui, on y est. On aura beau lutter, nous baignons dans une culture pornographique. Si on ne fait pas une éducation à la sexualité qui soit vraiment construite pour contrebalancer, pour leur offrir une vision positive de la sexualité, et pas que les dangers, mais à quoi ça sert d'être en lien avec son corps, de se respecter, d'être en lien à l'autre, de découvrir la beauté de l'exploration de la sexualité.
Et comment ça pourrait se traduire, ça, Pauline Carlier? Parce que ça existe, les cours d'éducation à la sexualité, c'est censé être obligatoire dans les collèges et les lycées, au moins 3 fois par an.
Alors, c'est même au primaire. Hein.
Ouais, ça commence au primaire et
ça ne se fait pratiquement pas.
Voilà,
alors,
c'est ça le problème.
Le problème du versant de l'éducation à la sexualité aujourd'hui, on est tout en prévention des IST, en explication de la procréation, mais qui parle vraiment de l'aventure humaine de la sexualité. Personne.
C'est quoi le problème?
Ben, le problème, c'est qu'en gros, on va dire aux jeunes, bon ben voilà, on va faire une éducation à la sexualité, on vous fait que des warnings danger MST, warning danger contraception. Et à côté de ça, ben, les questions qui les occupent, qui sont des questions de vie affective, relationnelle et sexuelle, on les laisse en peine avec ça. Et ils vont trouver des ressources dans la culture pornographique. Et ils se rendent bien compte que ça ne correspond pas à leur questionnement.
Mais est-ce que ça n'a pas toujours été le cas, Pauline Carlier? Est-ce que
ça a toujours été le cas,
le premier cours d'éducation sexuelle, ça n'a pas toujours été le porno, même s'il était moins accessible peut-être il y a quelques dizaines d'années?
Il n'avait pas du tout les mêmes composantes.
D'accord.
Et ce n'était surtout pas au même âge. Je vois bien la transformation en 10 ans chez mes patients, d'entendre qu'ils... Avant même de commencer une vie sexuelle de jeune adulte tout seul, ils sont exposés à de la pornographie. Ils n'ont même pas eu le temps de ressentir les changements en eux qui sont projetés là-dedans. C'est ça, on ne le voyait pas avant. Et puis, ce qui pouvait être de la curiosité à 11-12 ans, c'était pioché comme ça, un peu en cachette. Ils se rendraient bien compte que ça n'était pas destiné à eux. C'était quelque chose, c'était la pépite qui arrivait et qui nourrissait tout un imaginaire derrière. Aujourd'hui, ils n'ont plus besoin d'imaginaire, tout est disponible en 2 clics. Donc, ils ne structurent plus non plus leur imaginaire sexuel.
Ouais, l'accessibilité, clairement, a renforcé le phénomène. Vous évoquiez la culture pornographique, Pauline Carlier. Je vais donner ce chiffre, hein. 1/3 des vidéos sur le net sont à caractère sexuel. Olivier Gérard, quelle éducation à la sexualité aujourd'hui?
Il y a ce qu'a dit Pauline, on partage complètement. C'est-à-dire qu'il faut aussi repenser ce qu'on met derrière cette notion d'éducation à la sexualité. Il y a tout un ensemble d'éléments à mettre en compte. Je rajouterai quand même un point. C'est aussi aujourd'hui, face à ces jeunes, c'est aussi déconstruire, avoir des contre-discours à la pornographie. Parce qu'on va être dans une période, alors on espère qu'il y aura un blocage de ces sites, mais on est tellement sur un accès massif qu'on va avoir une période où on aura des jeunes qui auront déjà accédé, qui auront accédé à ces contenus ou qui continueront à y aller tout en ayant une éducation à la sexualité qu'on va mettre en place. Donc il faut aussi travailler sur ce contre-discours, c'est-à-dire expliquer ce qu'est la sexualité et ce que la pornographie n'est pas. Et oui, ça, c'est extrêmement important. Parce que...
Il y aura toujours des manières de contourner.
Il y aura toujours des manières. On parle des sites. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé des sites. C'est de l'actualité juridique. Mais n'oublions pas, et l'étude le montre, et d'autres études l'avaient montré avant, il n'y a pas que les sites pornographiques où les jeunes trouvent de la pornographie. Il y a aussi les réseaux sociaux. Il y a aussi les messageries. Où
à peu près un tiers de la pornographie.
Voilà.
Et ça, c'est beaucoup plus compliqué de
réguler. Il y a simplement aussi... aujourd'hui, le jour revient sur le smartphone, mais une fois qu'un jeune dispose d'une vidéo pornographique, il va simplement pouvoir la montrer très facilement, la diffuser très facilement. Donc on voit bien qu'il y a des règles à mettre en place pour bloquer, limiter l'accès, mais cette éducation à la sexualité, elle est essentielle. Elle doit commencer très tôt. Évidemment, il ne faut pas attendre que l'on soit, alors ce n'est pas le cas, mais il ne faut pas attendre d'être au collège ou au lycée, il faut, dès l'école primaire, on commence à aborder ces sujets, c'est fondamental. Il faut aussi le faire, l'école, l'éducation nationale, à condition qu'on lui donne les moyens de le faire. Et on sait que c'est souvent l'un des problèmes, des moyens qu'on affecte sur ces nouvelles missions, entre guillemets, qui ont quand même plus de 20 ans maintenant, mais qui ne sont pas le cœur de l'éducation nationale, et que ça se fasse aussi quand même en lien avec les parents et la famille. Parce que évidemment, cette question d'éducation au corps, à la sexualité, à l'amour, c'est aussi quelque chose qui se passe au sein de la famille, qui se discute, qui doit se discuter ou pas au sein de la famille. Il est important qu'il y ait aussi, là, comme souvent, une cohérence entre les parents et l'éducation nationale, de manière à ce qu'il y ait des messages qui soient identiques. Parce que la pire des choses pour les enfants, ce serait d'avoir des discours qui seraient contradictoires, dissonants. Et là, ce serait faire peser sur l'enfant l'incapacité des adultes, au fond, à avoir un discours cohérent.
Pauline Carlier, est-ce qu'il y a des pays dont on peut s'inspirer en termes d'éducation sexuelle et d'inclusion des parents, parce qu'effectivement le rôle des parents il est essentiel dans la pornographie, l'accès à la pornographie pour les enfants.
Alors au Canada, ça fait 40 ans qu'ils travaillent sur le sujet. Ils ont vraiment travaillé sur l'éducation à la sexualité dès le plus jeune âge. Donc ils ont les crèches maternelles là, sur les moins de 6 ans. Ils travaillent déjà sur l'appropriation de son corps, sur verbaliser le fait qu'ils ont des organes génitaux, leur donner le vocabulaire. Et puis, jusqu'à la terminale, il y aura vraiment une éducation à la sexualité très proximale auprès des jeunes. C'est-à-dire qu'on ne va pas travailler forcément sur de très grands groupes, parce qu'ils ne sont pas tous aux mêmes endroits, au même niveau. Et il ne faudrait pas aller répondre à des questions d'un niveau trop haut qui serait intrusif pour ceux qui n'en seraient pas là. Et c'est des temps de discussion, de libération de parole pour savoir où ils en sont. Et répondre à leurs questions avec des éléments scientifiques, avec des questionnements, avec des outils. Ils ont vraiment développé des mallettes pour le dialogue, avec des photos, des choses comme ça. Et c'est extrêmement riche et ça marche très bien. Là où on voit un effet évident, c'est les effets sur le consentement. Pour eux, ça fait 40 ans qu'ils travaillent sur le sujet, et évidemment que le consentement, c'est extrêmement joyeux chez eux. Dire oui ou dire non, c'est merveilleux. Alors qu'ici, en France, on a encore l'impression qu'on doit signer un contrat et que c'est rébarbatif. Donc, on voit à quel point l'éducation sexuelle, quand elle est faite dès le plus jeune âge, dans quelque chose du respect du corps, de l'individu, de lien, eh bien, je pense que ça contrebalance les effets d'une culture pornographique.
C'est intéressant de parler de consentement. Parce que ça peut paraître étonnant, ces dérives pornographiques, cette adhésion massive à la pornographie dès le plus jeune âge, dans une période quand même MeToo, où la parole se libère justement sur la question du consentement. Samuel Comblé.
Oui, alors le problème de la pornographie, c'est qu'elle va codifier d'une certaine manière les rapports sexuels. Moi, je le vois au travers des patients que je peux rencontrer. C'est vrai, quand on leur demande de raconter un peu justement leur sexualité, on est étonné de voir qu'ils ont tous le même discours alors qu'ils ne se connaissent pas. Mais ils vont raconter un scénario vraiment très étape par étape avec des choses qu'ils ont vues tout simplement dans les films pornographiques. Donc, c'est vrai que c'est difficile après de passer passer derrière et d'apporter ce contre-discours dont on parlait tout à l'heure et de leur dire que bah non, il y a un rapport sexuel, ça se vit à deux, qu'il faut tenir compte de l'autre. Je rajouterais aussi dans l'éducation, peut-être aussi mieux parler des émotions. En France, on a beaucoup de mal à apprendre aux jeunes à ressentir les émotions, à savoir mettre des mots sur ce qu'ils ressentent, à respecter l'émotion des autres. Les pays du nord de l'Europe, par exemple, sont beaucoup plus en pointe que nous pour pouvoir parler d'empathie. Et je pense que ça fait partie aussi, justement, de ce travail de découverte de son corps. Et quand on est, je dirais, maître de son émotion et qu'on la comprend, ben on est aussi capable de comprendre celle des autres. Et tout ça, ce travail-là, il manque. Et je suis d'accord sur l'idée de le faire le plus tôt possible. À l'association e-enfance, on fait de la prévention autour de ces sujets dès 6 ans, dès CP. On parle de pornographie, on parle de ses émotions. Parce que si on ne le fait pas dès le début, eh bien, on sait que les enfants aujourd'hui, autour de 7-8 ans, commencent à être déjà autonomes sur Internet. Le risque, c'est d'être exposé accidentellement à des images ou d'aller les chercher et de se rendre compte qu'en fait, ce qu'on imaginait n'est pas du tout la réalité. Mmh. Et c'est là où ça peut être extrêmement traumatisant. Donc, il y a tout ce travail à faire. Et une dernière chose, c'est souvent quand on parle aux parents de la nécessité de pouvoir en parler, ils nous disent toujours « oui, mais c'est trop tôt, j'ai peur de choquer mon enfant ». Et de toute façon, leur enfant sera choqué à un moment puisque vous avez rappelé les chiffres.
Et puis les parents sous-estiment peut-être l'âge auquel les enfants commencent à s'exposer.
Est-ce qu'ils vont voir et puis, à un moment, ils se disent « c'est trop tard parce que le gamin a déjà fait ses propres expériences sexuelles ». Donc, il y a une chose qu'on peut faire qui est très simple, c'est avant d'imaginer qu'on va devoir parler de sexualité à son enfant, peut-être de l'interroger sur sa représentation de la sexualité. Parce que de toute façon, il en a entendu parler dans les cours de récré, etc., avec les copains. Et donc déjà, si on peut interroger l'enfant sur qu'est-ce qu'il connaît de la sexualité, ça permet de savoir où il en est dans les éléments de langage qu'il va utiliser, dans sa représentation. Et ça permet du coup aux parents peut-être de remettre dans l'axe de ce qu'on a envie de transmettre en termes de valeurs, de repères, etc. Et ça facilite le dialogue.
Le dialogue qui est clé, évidemment. Exactement. Que ce soit avec votre association, à l'école, avec les parents. Olivier Gérard, on a bien compris que vous avez dit bloquer, c'est compliqué, limiter, parce qu'il y aura toujours des manières de contourner l'accès au site X pour les moins de 18 ans.
C'est essentiel. Ouais. Il ne faut pas créer une illusion qu'on va pouvoir empêcher l'accès. D'abord, ce n'est même pas une question de savoir s'il faut empêcher l'accès totalement. Il faut limiter la massivité de cet accès. Il faut préparer aussi les jeunes au fait qu'ils vont tomber sur ce type de contenu. Ça, c'est essentiel.
Et dans ce but-là, est-ce que ce principe d'une attestation numérique qui, normalement, doit être mis en place dans les prochains mois en France, est intéressant? C'est une application qui serait à installer sur son smartphone. On évoque les pistes. Dès que vous consultez un site porno, vous devez confirmer votre majorité via l'application. C'est un petit peu comme quand vous achetez quelque chose
bien
en
sûr.
Ligne. Voilà, le contrôle des banques.
Ça fait partie des pistes qui sont extrêmement intéressantes, qu'il faut en tout cas expérimenter, tester, voir. On verra s'il y a des améliorations à aborder. Nous, on y voit un intérêt dans cette proposition-là. Donc, on espère qu'elle sera mise en place rapidement et qu'elle permettra de détourner l'attention sur la question de l'accès massif pour se recentrer sur les enjeux que sont l'éducation, la prévention, parce que il faut avancer sur ces deux piliers en même temps, réduire l'accès, réduire l'impact et travailler sur l'éducation et la prévention.
Mais sur ce deuxième pilier, comme vous dites, il n'y a pas grand-chose qui est prévu en France.
En matière d'éducation et de...
Non, alors, comme je disais, je l'ai dit tout à l'heure à Pauline Carlier, 3 séances par an obligatoires dans les collèges lycées d'éducation à la sexualité. Selon un rapport de l'inspection générale de l'éducation, moins de 15% des élèves en bénéficient. Donc là, déjà, il faut serrer la vis.
Là, il faut serrer la vis et il faut remettre cette priorité, ce sujet comme une action prioritaire dès la prochaine rentrée.
Samuel Comblet.
Oui, puis il faut, je pense, permettre aux jeunes de trouver un interlocuteur ou des ressources qui vont pouvoir l'aider aussi à se faire sa propre représentation. C'est vrai que l'éducation nationale ne joue pas le jeu partout, mais le pédiatre, les centres de planification, il existe des services téléphoniques qui permettent aussi aux jeunes de pouvoir parler de sexualité. Et parfois, on est plus à l'aise de le faire à distance avec l'anonymat du téléphone que de le faire avec ses parents. Donc, je pense qu'il y a des occasions, il y a des possibilités, des professionnels qui sont tout à fait aguerri justement à dialoguer avec des jeunes et à leur permettre de mettre des mots, comme on le disait tout à l'heure, sur ce sujet.
Donc les deux piliers, c'est déjà la fin de ce débat, je voudrais juste résumer les deux piliers.
Pour les parents, il y a quand même le site du gouvernement qui s'appelle jeprotège-mon-enfant.gouv.fr qui a un axe centré sur la pornographie et qui propose des ressources pour les parents.
Donc ça, c'est le pilier éducation et limiter l'accès. Il y a une action en justice en cours pour limiter l'accès au site porno des moins de 18 ans des mineurs. Merci Samuel Comblet, psychologue de l'enfance et de l'adolescence, Olivier Gérard, spécialiste des usages numériques à l'UNAF. Et merci à Pauline Carlier, psychomotricienne et sexologue. C'est la fin de ce débat du jour.